Bonne année avec Sounou Assurance, qui a le profil pour vous accompagner pendant ces 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Suivez Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. 82% des Français se déclarent très sensibles à leur environnement sonore et avouent qu'un niveau sonore trop élevé peut les dissuader de fréquenter tel ou tel lieu. 61% se plaignent de travailler dans le bruit et 51% se disent gênés par les musiques d'ambiance dans les cafés-restaurants. C'est ce que révèle un sondage Opinionway réalisé pour la 16e édition de la Semaine du Son qui se déroule jusqu'à dimanche dans une quarantaine de villes en France, mais aussi à Bruxelles, Namur, Genève et à d'autres périodes de l'année, au Mexique, en Colombie, en Argentine, en Uruguay, au Venezuela, au Canada, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Roumanie et bientôt à Cuba. C'est l'occasion pour nous de faire un point sur la santé auditive. 360 millions de personnes dans le monde souffrent d'une déficience auditive handicapante. À l'échelle de la planète, cela représente plus de 5% de la population, dont 32 millions d'enfants. Quelles sont les principales causes des troubles de l'audition? Comment les prévenir et préserver une bonne audition? Quel est l'impact sur l'organisme des nuisances sonores dans les lieux publics et dans l'environnement professionnel? Des aides auditives aux implants cochléaires, existe-t-il une solution pour chaque patient et à quel coût? Que peut-on attendre de la thérapie génique? On va essayer de répondre à ces questions avec nos invités. Docteur Yann Guyen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin ORL à la Pitié-Salpêtrière à Paris et maître de conférence à l'université Sorbonne Pierre et Marie Curie Paris 6. Vous faites également partie de l'équipe de recherche réhabilitation chirurgicale mini-invasive et robotisée de l'audition de l'INSERM. Christian Hugonnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur acousticien, président et fondateur de l'association La Semaine du Son. Dans 20 minutes, nous serons en ligne avec le professeur Niembwe Dieudonné, médecin au service d'ORL des cliniques universitaires de Kinshasa, mais aussi dans le privé. Et puis, il est aussi professeur d'ORL et chargé de recherche à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, en RDC. En fin d'émission, nous retrouverons la chronique de Jean-Marc Sen, médecin du sport et de l'équipe nationale de judo. Il nous dira tout sur la tendinopathie d'Achille. Si vous avez des questions sur les troubles de l'audition ou si vous voulez témoigner, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Christian Hugonnet, votre association La Semaine du Son est à l'origine d'une résolution adoptée par l'UNESCO en 2017. Pourquoi avez-vous œuvré pour que l'UNESCO adopte cette résolution?
Je pense qu'il était important dans un monde qui était terriblement rétinien, qui est notre monde de tous les jours, on ne fait que regarder le monde, d'amener en fait une prise de conscience sur l'oreille, sur la perception de l'audition, la perception auditive du monde, parce que nous pensons, et bien évidemment, que entendre mieux, c'est aussi mieux voir. Hein. Donc, il était important de ramener effectivement les choses à leur juste valeur et de ramener effectivement cette prise de conscience dans le collectif, donc et comprendre également le monde aussi par l'oreille, ce qui n'est pas forcément chose facile à tous les niveaux de la vie.
Pourquoi avez-vous fait une démarche auprès de l'UNESCO et pas de l'OMS, par exemple?
Tout simplement parce que le projet de la... Alors, nous avons l'OMS avec nous, donc qui est partenaire du projet, évidemment. Donc, la première chose, quand je suis allé voir l'UNESCO, je leur ai posé la question de cette résolution sur le sonore, avec un des pans qui touchait à l'audition, donc à la santé auditive. Et tout de suite, on m'a dit, est-ce que vous avez l'accord de l'OMS? Et l'accord de l'OMS, évidemment, je l'avais évidemment en amont. Mais le projet de la résolution touche effectivement au préventif, et qui touche en particulier à l'environnement sonore qui dépend là du coup directement de l'UNESCO.
Et de l'urbanisme, par exemple.
Et de l'urbanisme. Donc cette année, on travaille avec Roland Castro sur justement...
L'architecte
urbaniste Laurent Cajot, qui, pour fonctionner, pour réfléchir sur le sonore, un sonore qui pourrait imaginer, qui nous permettrait d'imaginer les villes demain un peu différemment. Autrement dit, comment imaginer le Grand Paris, par exemple, à partir du sonore aussi, hein, ce qui serait très intéressant. Et puis nous avions effectivement en lice également tout ce qui touche à l'enregistrement, à la production du son, qui là ne dépend pas du tout de l'OMS, hein, qui dépend bien de la culture, hein, comment enregistrer correctement, comment écouter correctement à l'époque où aujourd'hui le haut-parleur a pris la place de l'instrument de musique, hein. Donc cela aussi cela dépend de l'UNESCO. Nous avions également un thème qui était celui du rapport entre l'image et le son, bien comprendre que c'est le son qui déclenche l'image et non pas l'inverse, hein. En radio, vous savez à quel point vos auditeurs voient et vous voient en ce moment, alors que vous n'êtes pas effectivement sur l'écran, mais vous les imaginez, hein. Donc le sonore est vraiment un véhicule de l'image. Et nous avions également en ligne de mire l'expression musicale, qui est un secteur très important, à une époque, et j'insiste là-dessus, où nous sommes en train d'être en déficience en termes d'expression musicale. Nous sommes en France à moins de 1% de gens qui s'expriment musicalement.
Docteur Nguyen, je l'ai dit tout à l'heure, 32 millions d'enfants dans le monde souffrent de déficience auditive. En France, chaque année, près d'un millier de nouveau-nés sont affectés de surdité sévère ou profonde. Est-ce qu'on en connaît là ou les causes ?
Oui, tous les enfants chez lesquels sont diagnostiqués une surdité à la naissance bénéficient du dépistage et d'explorations complémentaires avec un bilan ORL qui permet dans un grand nombre de cas d'effectuer un diagnostic et de mettre en évidence soit des causes génétiques, soit des infections materno-fœtales au cours de la grossesse et notamment des infections au virus CMV.
Et quel est le pourcentage ? C'est davantage d'origine génétique que congénitale ou l'inverse ?
Non, c'est davantage d'origine génétique, oui, que congénitale. Néanmoins, on peut travailler sur ces deux étiologies afin d'améliorer la prise en charge et diminuer la prévalence des surdités chez ces enfants.
Est-ce que vous faites une différence d'un point de vue médical entre surdité, trouble de l'audition et déficience auditive ? Il y a une graduation.
Ces termes sont synonymes, mais ce que l'on regarde en fait, c'est la profondeur de la perte auditive que l'on peut mesurer d'une part, mais aussi le retenti, le vécu par le patient de cette perte auditive. Et s'associe à cette perte auditive d'autres troubles qui ne sont pas directement liés à l'hypoacousie, qui peuvent être des acouphènes, une hyperacousie, des gens qui peuvent être au contraire gênés par des bruits d'une intensité modérée, ou voire des vertiges, qui est l'autre organe de l'oreille interne lié à celui de l'audition.
Vous parliez d'acouphènes. Sur Facebook, Nafi de Paris nous écrit: cela fait 10 ans que j'ai des acouphènes à une oreille après avoir passé un moment à côté d'un haut-parleur. Le médecin m'a dit que c'était irréversible. Que faire? Je commence à développer de l'arthrose. Est-ce que l'autre oreille peut être contaminée?
Alors, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions dans la prise en charge des acouphènes. Donc, ce n'est jamais irréversible. On peut toujours faire quelque chose. La première chose que je recommande à ce monsieur, c'est
cette dame,
un bilan de l'audition auprès d'un ORL. Et en fonction de ce bilan de l'audition, on l'orientera vers tel ou tel type de traitement qui peuvent être un appareillage, une thérapie sonore, un traitement médicamenteux ou des thérapies autres telles que de la sophrologie. Ça dépend vraiment de l'audiométrie et de la pathologie de la patiente, ainsi que du vécu de sa maladie. Quant à l'arthrose, il n'y a pas vraiment de lien entre une arthrose qui pourrait toucher une articulation telle que le genou, le coude et l'oreille. Donc c'est pas un terme qui est très approprié pour parler d'une anomalie même de la chaîne des osselets.
On a beaucoup de questions au standard. On va partir pour Abidjan, d'où nous appelle Koné. Bonjour.
Bonjour madame.
Koné, vous pouvez poser votre question, le docteur Nguyen vous écoute.
Ok, bonjour professeur.
Bonjour monsieur.
Voilà. Ok. Bon, tout ça, moi, j'ai ma fille qui n'avait pas besoin de sourdité, qui n'avait pas besoin de paroles. Elle s'exprimait très bien, elle s'entendait très bien. Mais suite à un palis aigu, donc dans le village, on l'a transférée à Boaké. Bon, après le traitement du palis, on a constaté qu'elle n'entendait plus. Mais elle arrivait à parler quand même. Elle n'entendait plus. Au fur et à mesure aussi, on a compris aussi que la parole devient molle. C'est-à-dire qu'on n'entend pas bien, elle n'arrive pas à s'exprimer. La parole devient bizarre. Bon, suite à cela, à Boaké, ils ont dit, bon, où la soeur est, c'est pas le traitement, il passe pour ça à Boaké. Donc, ils vont l'envoyer à Abidjan. J'ai dit, d'accord, comment monsieur Abidjan, faites-la envoyer à Abidjan. Donc, suite à cela, on est arrivé à Abidjan. On nous a rendu aussi à Bobo, chez un médecin là-bas, un médecin qui nous a conseillé d'aller au sud de Yopougon. Il y a un professeur là-bas, professeur Yoda, je crois, qui va essayer de nous diagnostiquer. On a été chez le professeur, lui, il a fait le diagnostic, bon, il nous a transféré à l'hôpital Benjerville de Benjerville, mère-enfant, l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Bon, suite à cela, après tout ce truc, ça n'a pas marché. Donc, actuellement, l'enfant a des difficultés, elle n'attend même pas, et la parole devient molle, on n'attend même pas ce qu'elle dit.
Alors que...
Elle a envie de parler dans notre parole.
Voilà.
Donc, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'on peut faire, et qu'il y a une solution pour que vraiment elle puisse attendre, donc mon objectif.
Docteur Nguyen, d'abord, est-ce qu'une crise de palus aigu peut provoquer la surdité?
Oui, une crise de palus aigu peut être à l'origine des troubles de l'audition de votre enfant, Monsieur Koné, du fait d'une crise vaso-occlusive, c'est-à-dire que les vaisseaux qui perfusent la cochlée, qui irriguent la cochlée, peuvent s'être bouchés temporairement et cela a pu dégrader les cellules, les petites cellules qu'il y a dans la cochlée et qui servent à entendre. Mais on ne peut pas être certain que ce soit cela. Il faut aussi examiner votre enfant par un ORL comme vous l'avez fait pour être certain que ce ne soit pas une autre cause qui puisse éventuellement être traitable. Maintenant, pour prendre en charge votre enfant, il va être difficile de réparer l'oreille interne. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont faits dans ce domaine, mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à réparer facilement. Donc, on compense le handicap plus qu'on ne le répare, soit par des aides auditives. Donc, ça, c'est la première chose à mettre en place, avec une rééducation orthophonique aussi qui va aider votre enfant à communiquer, et si ça ne suffit pas, voir en Côte d'Ivoire, il y a un programme d'implantation cochléaire qui pourrait éventuellement être mis en place. Mais ça dépend vraiment de la profondeur de la surdité de votre enfant, mais elle est à un âge où elle est dans l'acquisition du langage, elle va à l'école, c'est important pour elle et son avenir de ne pas négliger son audition.
On va prendre un autre auditeur au standard, Stanley, qui nous appelle de Mbujimaï en RDC. Bonjour Stanley.
Bonjour Chantal.
Alors, posez votre question Stanley.
Oui, avant tout c'était normal, mais après un bout de temps, j'ai commencé à porter les écouteurs. Maintenant, récemment, l'écouteur n'était pas même très fort en l'écoutant. Maintenant, les oreilles ne supportent pas encore du bruit, tellement, même si le niveau du volume est très bas. Alors, ma question était, que faire à ce moment?
Docteur Nguyen.
Alors, Stanley...
J'imagine que c'est le gros problème en Afrique comme en Europe. Les jeunes écoutent beaucoup de musique tout le temps avec un casque ou des écouteurs. Et est-ce que ça augmente les troubles de l'audition?
Alors oui, en sachant qu'en France, les ORL et les associations ont fait un grand travail de prévention auprès de la population et des jeunes pour les informer du fait que écouter le son trop fort avec un baladeur ou avec un téléphone peut être nuisible. Et on a même des limitations sonores sur la plupart des appareils qui sont vendus, commercialisés en France. C'est pas le cas dans tous les pays et Stanley vraisemblablement vous avez ce qu'on appelle une hyperacousie, c'est-à-dire que vous êtes gêné par des bruits d'une intensité qui ne sont pas excessivement fortes, et la première chose à faire est de vérifier que vous n'ayez pas une perte auditive sur certaines fréquences qui pourraient expliquer cela. Et il y a des traitements pour l'hyperacousie qui vont consister à vous réhabituer petit à petit au son, mais je pense que Monsieur Hugonnet aussi a des informations à nous donner.
Jean-Paul Hugonnet, l'oreille humaine peut capter jusqu'à combien de décibels?
L'oreille peut...
Et quels sont les seuils de tolérance?
Oui, on peut aller jusqu'à 110, 120. Mais je crois, et au-delà de 110, on est très très mal, je veux dire. Mais ce monsieur, visiblement, n'a pas entendu des niveaux sonores très importants. Et je mets l'accent sur quelque chose qui se... Un problème qui se pose aujourd'hui sur tous les enregistrements musicaux aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la compression du son. C'est un phénomène tout à fait important qu'on ne connaissait pas il y a encore 20 ans, hein, 30 ans. C'est pour ça qu'on revient sur le vinyle aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, tous les sons... numériques sont extrêmement compressés vers le haut, hein, donc c'est pas une question de débit, c'est une question de compression, c'est-à-dire que on n'a plus de niveau faible, tous les niveaux faibles sont projetés en direction des niveaux forts. Et en fait, la dynamique, ce qu'on appelle en fait la respiration, la nuance, n'existe plus. Donc en fait, une personne qui va écouter à 80 décibels, donc un niveau, là je vous parle à peu près à 70 dB, vous voyez, donc 80, ça serait un peu plus fort, mais à peine, eh bien, si on reste entre 80 et 78 décibels, donc 2 dB de dynamique sonore, de respiration, on va fatiguer l'oreille, c'est-à-dire qu'on va précisément amener l'oreille à ne plus avoir de respiration, plus de micro-silence. Et cela, à mon avis, monsieur, a été profondément choqué par ce type d'écoute, probablement parce que précisément ces musiques-là ne donnent pas de respiration suffisante à l'oreille et qui nous sont pourtant nécessaires pour que effectivement l'oreille puisse se rétablir.
Alors, docteur Nguyen, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil concret à Stanley?
Premièrement, faire le point sur son audition, vérifier qu'il n'y ait pas une perte auditive sur une ou deux oreilles et évaluer la profondeur de cette perte. Et deuxièmement, le traitement de l'hyperacousie est un traitement qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années, où en fait on va réhabituer petit à petit l'oreille à des intensités.
Et on peut récupérer sonores. Complètement l'audition.
On ne récupère pas l'audition. On récupère la tolérance au bruit de l'environnement, ce qui est différent. Pour entre guillemets récupérer l'audition, le seul traitement est de compenser la perte avec un éventuel appareillage.
Merci beaucoup Stanley, j'espère qu'on a répondu à vos préoccupations. Bonne journée à Mbujimaï. Jean nous appelle de Bujumbura. Bonjour Jean.
Bonjour.
Alors on vous écoute.
Moi, c'est un problème d'audition qui était causé par une otite que j'avais contractée il y a 6-5 ans. Elle a laissé une forte accumulation de liquide derrière les tympans. Alors l'opération, ça a marché, mais il y a des petites séquelles. J'entends un tout petit peu moins fort qu'avant, mais c'est pas trop grave quand même.
De Tante Guyenne, quel conseil donner à Jean? Un peu les mêmes que Castanley?
Non, enfin oui, toujours commencer par aller voir un ORL, je me
Proposer
répète,
un diagnostic.
Mais c'est par ce biais-là que commence la prise en charge. Il est probable que Jean ait pas tout à fait le même problème que Stanley, puisque ce n'est pas la même partie de son oreille qui est touchée, ce n'est pas probablement pas son oreille interne, mais plutôt cette fois-ci son oreille moyenne, c'est-à-dire sa membrane tympanique et la chaîne des osselets qui permet de transmettre les sons de la membrane tympanique à l'oreille interne. Il est important que on contrôle que l'infection qu'il a eue par le passé soit bien guérie et qu'elle n'évolue pas à bas bruit. Il y a des patients qui ont ce qu'on appelle des otites chroniques et donc des pathologies de l'oreille qui évoluent sur plusieurs années et qui, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, peuvent entraîner une destruction complète du tympan, de la chaîne des osselets et de l'audition. Et ces maladies-là peuvent être traitées par des interventions chirurgicales. Donc c'est pour le coup, on peut agir et donc c'est pour ça qu'il est important qu'il ait un bilan de son oreille pour voir si une opération est nécessaire ou non.
On dit souvent cette musique, enfin on dit souvent, ça peut arriver, cette musique m'a perforé les tympans. Est-ce que c'est une phrase vraie au sens propre? Est-ce qu'on peut avoir le tympan perforé?
Je pense qu'on va pouvoir vous répondre
Christian et Bonnet.
Tous les deux.
Non, il faut, pour arriver à perforer un tympan, je pense qu'il faut y aller très fort avec une explosion. Oui, une explosion à quelques mètres, oui, de distance. Oui, on peut perforer un tympan, on peut faire exploser le tympan. Mais à ma connaissance, aucune musique ce jour, en tout cas, n'a été capable de le faire. Si ce n'est effectivement peut-être en situation où on a torturé les gens, peut-être. Mais là, en tout cas, c'est dans notre vie quotidienne, ce n'est pas le cas.
Je vous propose maintenant d'écouter un témoignage. Jean-Paul est électricien à la retraite. Il joue de l'orgue dans son église depuis 25 ans. Seulement à cause de son âge et de la pratique de cet instrument de musique, son audition s'est beaucoup dégradée ces dernières années. Il s'est confié à Fabrice Wimo.
À l'âge de presque 60 ans, j'ai pris ma retraite Et comme ma femme est corse, je passe la moitié de mon temps en Corse. J'avais appris à jouer de l'orgue pour ma retraite. Et il se trouve qu'à la cathédrale d'Ajaccio, j'ai été sollicité pour faire des remplacements de l'organiste titulaire quand il n'était pas là. Ça fait bientôt 25 ans. J'ai fait le compte, puisque j'enregistrais à chaque fois que j'allais, je notais sur un papier. En 25 ans, j'ai joué à 800 messes à peu près.
À quel moment avez-vous constaté que quelque chose n'allait pas avec votre audition ?
Oh ben, je pense que c'est vers 60, 62, 63, 60 et 65 ans. Je me suis fait appareiller parce que j'entendais plus d'une oreille, donc j'étais appareillé d'une oreille. Après, j'ai fait la deuxième oreille et puis depuis ce temps-là, je porte des appareils. Les contraintes, c'est qu'il faut prendre soin, c'est délicat, hein, il faut nettoyer. Et puis, alors, quand on se lave, il faut faire attention. Et quand je vais à la plage, je mets des vieux appareils. Comme ça, je suis sûr que les neufs sont pas abîmés.
Avant d'être appareillé, comment se manifestait au quotidien ce problème ?
Bon, on s'en rend pas compte. Hein. On s'en rend pas compte qu'on n'entend plus bien. Hein. C'est l'entourage qui vous le dit. Hein. Après coup, je me rends compte que j'avais sûrement des déficiences dans les aigus parce que j'ai toujours eu du mal à apprendre l'anglais. Et dans l'anglais, il y a beaucoup de sons à fréquence élevée. Alors je pense que j'avais déjà quelque chose. Quoi.
Alors depuis que vous êtes à Paris, qu'est-ce qui a changé dans votre vie quotidienne ?
On n'y fait pas attention, hein. C'est tellement confortable qu'on ne fait pas attention au manque, hein, au précédent. Un petit souci, c'est, vous savez, alors que c'est un instrument dont on construit la sonorité à chaque moment. Quand vous appuyez sur un orgue, il vient rien. Donc il faut le préparer pour qu'il donne une sonorité que vous choisissez. Donc c'est plutôt que sans appareillage, c'est un peu difficile. Et puis il y a aussi l'intensité sonore qu'on veut donner. Quand on a un appareil, on entend une intensité sonore, mais on n'est pas sûr que c'est celle que perçoivent les gens qui sont dans la cathédrale. C'est un peu gênant parce que moi je me demande toujours qu'est-ce qu'ils entendent. Mais sans appareil, ça serait très difficile de pratiquer l'instrument parce que dans un office, vous avez des gens qui font chanter, vous avez un prêtre qui déroule la cérémonie, vous êtes loin derrière dans le fond, dans un étage, si vous n'entendez pas ce qu'il dit, et si vous n'entendez pas en retour l'assemblée chanter, c'est très difficile de suivre.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Nguyen, Jean-Paul disait à l'instant, on ne se rend pas forcément compte qu'on entend de moins en moins bien. C'est un peu étonnant, non ?
Alors, ça dépend de la vitesse à laquelle s'installe la perte d'audition, en fait. Il y a des patients qui ont ce qu'on appelle des surdités brusques, où l'audition chute du jour au lendemain. Évidemment, ils s'en rendent compte. Mais chez une grande majorité des patients, cette perte auditive, ça va s'installer sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et donc, effectivement, ce que décrit Jean-Paul revient souvent parmi nos patients, c'est-à-dire que cette perte s'installe progressivement, il fait répéter les gens, on lui signale qu'il met la télé ou la radio un petit peu trop fort. Donc ça survient, c'est surtout son entourage qui lui signale. Et ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que le fait qu'il ait besoin de concentration, en fait, pour comprendre les gens, soit quand il y a un peu de bruit, soit quand plusieurs personnes parlent en même temps, va entraîner une fatigabilité auditive qui va aussi entraîner une diminution de sa qualité de vie. Et c'est la correction de ces troubles de l'audition qui vont permettre d'améliorer tout cela.
Est-ce que les appareillages sont aujourd'hui plus performants ? Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques depuis longtemps sur les appareillages, sur les aides auditives.
Alors, l'appareillage n'est pas la solution universelle et il ne faut pas que les patients s'imaginent que on retrouve une audition tout à fait normale ou naturelle avec un appareillage. L'appareillage permet d'améliorer l'audition. Il nécessite des réglages, il nécessite de s'habituer à sa mise en place et donc
Il y a toujours ce problème de profondeur du son, par exemple si on se trouve dans une pièce avec une ambiance sonore très importante, du coup tous les sons sont noyés les uns dans les autres.
Le problème vient pas, enfin les appareils s'appuient sur un organe de l'audition qui est malade. Et donc, aussi performant qu'il puisse être, lorsqu'on va amplifier des sons ou traiter des sons pour les transmettre à un organe de l'audition qui dysfonctionne, lui-même va déformer les sons. Il va y avoir ce qu'on appelle des distorsions qui vont de toute manière perturber le message sonore. Donc, l'appareil améliore la communication, ça c'est indéniable. Il diminue la fatigabilité auditive. On sait maintenant aussi que il va retarder les troubles des fonctions cognitives et des maladies telles que Alzheimer chez des personnes âgées qui sont appareillées. Donc, il faut se faire appareiller. C'est très important, non seulement pour son audition, mais pour sa santé globale. Mais voilà, c'est pas non plus une solution qui permet de résoudre tous les problèmes.
On va faire une pause musicale avec Ronnie Alter, Once Again. Ronnie Alter est nommé aux Victoires de la musique le 8 février dans la catégorie Album de l'année. Et on se retrouve juste après.
Once again I bumped my head on the corner of the bed. What you gonna do? What you gonna do?
Once again, l'israélienne Ronnie Alter dans Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons des troubles de l'audition avec le médecin ORL Yann Nguyen et Christian Hugonnet, président fondateur de la Semaine du Son. On va partir à présent pour Kinshasa, retrouver le professeur Dieudonné Nyamboué. Bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous êtes professeur d'otorhinolaryngologie à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, médecin aux cliniques universitaires de Kinshasa au service d'ORL et aussi en cabinet privé. Professeur, quel est le taux de prévalence des personnes qui souffrent de problèmes d'audition en RDC?
Ah oui, merci beaucoup. Pour notre pays, je pense que nous avons plus les taux de fréquence de troubles de l'audition en milieu hospitalier. Et cela varie. Des études récentes ont montré que nous avons pratiquement un taux de 7 à 11% de patients qui consultent pour troubles de l'audition dans les formations médicales. Mais une prévalence générale dans la population, nous ne pouvons pas estimer pour le moment. Certains travaux dans les écoles avaient donné de prévalence des troubles de l'audition autour de 3 à 5% dans une école.
Et quels sont précisément les motifs de consultation dans votre cabinet? De quoi se plaignent les gens quand ils viennent vous voir?
Ah oui, généralement pour ceux qui viennent pour des troubles de l'audition, ils viennent effectivement pour ça. Ils vous disent que l'audition a diminué pour beaucoup de personnes adultes. Parfois, cette diminution peut être accompagnée à certains bruits. Et aussi pour la population trop jeune, ce sont les parents qui consultent parce que ils ont constaté que l'enfant a un trouble de langage, ou soit il a un retard de langage, ou il a des défauts de prononciation. Et à ce moment-là, on peut faire des examens et confirmer qu'il s'agit de troubles de l'audition qui perturbent le langage de l'enfant.
Et les patients viennent vous voir facilement, surtout quand ils ont des problèmes liés à leur environnement sonore, que ce soit dans le travail ou même à la maison, là où ils vivent.
Oui, oui, il y a des patients qui viennent d'eux-mêmes parce qu'ils ont des problèmes. Dans notre série, nous avons réussi plus de personnes qui travaillent dans des centres de maisons de communication, dans des call centers qui sont tout le temps exposés à des bruits de téléphone. Ceux-là viennent consulter spontanément. Mais il y a aussi la population jeune parmi les utilisateurs des baladeurs qui consultent aussi parce que après avoir utilisé les écouteurs pendant un temps, ils ont constaté qu'il y a soit une diminution de l'audition, soit des bruits une conséquence de cette diminution de l'audition.
Alors comment procéder?
Oui.
Allez-y.
D'autres patients qui viennent de sociétés brassicoles, qui sont généralement exposés au bruit, ils viennent aussi en consultation.
Alors, comment procédez-vous avec vos patients, très concrètement?
Oui, concrètement, lorsqu'ils viennent pour diminution de l'audition, nous faisons un interrogatoire fouillé pour rechercher l'exposition au bruit dans l'environnement ou d'autres facteurs de risque qui peuvent expliquer cette diminution de l'audition. Et à ce moment-là, on fait un examen oral. Nous sommes dans un cabinet oral. On fait un examen oral après avoir reçu les plaintes du patient et certaines plaintes associées. Nous faisons un examen oral qui donne l'état sur l'oreille du patient, sur des pathologies qui peuvent être au niveau de l'oreille. Et aussi, nous passons à une évaluation plus ou moins objective. Hein, mais on commence par des examens de routine telles que l'audiométrie qui est subjectif, un examen subjectif, et puis on peut faire d'autres examens, tympanométrie, etc., pour mesurer la pression et éliminer des pathologies de l'oreille moyenne. Mais essentiellement, avec l'audiométrie, nous pouvons définir les degrés de la perte auditive.
Et est-ce que vous faites des appareillages, professeur?
Oui, nous faisons des appareillages, dans le sens que nous ne les fabriquons pas ici, mais nous avons des appareils auditifs qui sont commandés de l'extérieur et que nous utilisons pour des patients. Il y a un grand nombre qui arrivent à supporter. Nous avons une équipe avec un orthophoniste et de temps en temps, les malades sont appareillés.
Et est-ce que ces appareillages coûtent cher? Est-ce que tout le monde peut se permettre?
Ça coûte cher parce que...
Oui, est-ce que tout le monde peut se permettre d'acheter un appareillage?
Bon, ça dépend. Nous avons des appareillages qui viennent de plusieurs pays, mais personnellement, nous conseillons des appareillages de bonne qualité, donc qui viennent de grandes usines, et ils ont un coût, hein, ça coûte cher, ça n'est pas à la portée de tout le monde.
Est-ce que l'État congolais organise des campagnes de sensibilisation au bruit?
Bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas de campagne bien systématisée. Mais il y a des équipes, des centres, des religieux qui s'occupent des troubles de l'audition, qui de temps en temps organisent des campagnes. Et nous-mêmes, nous avons organisé dans le cadre d'une ONG des campagnes de sensibilisation au bruit et des tests de l'audition, généralement dans le milieu de populations pauvres ou bien dans les écoles.
Professeur, j'ai une dernière question pour vous. Quel est le message que vous voudriez faire passer à la population?
Le grand message, c'est de savoir que les troubles auditifs existent et qu'ils sont de plus en plus fréquents et que la population doit apprendre à consulter un médecin à temps pour qu'on puisse diagnostiquer des pathologies qui peuvent être responsables de ces troubles auditifs. Et une fois des pathologies sont connues et une prise en charge correcte peut être appliquée, je pense que nous pouvons récupérer un grand nombre de patients. Mais pour ceux qui ont déjà de pertes auditives profondes déjà constituées, il est aussi important de voir des médecins et pour être appareillé ou obtenir d'autres conseils entre autres l'éruption des bruits, etc.
Merci beaucoup, professeur Dieudonné Niemboué, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur d'ORL à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, médecin ORL aux cliniques universitaires de Kinshasa en RDC. Bonne journée à vous.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Docteur Nguyen, le professeur parlait à l'instant, disait que c'était important de consulter à temps. Vous êtes d'accord avec lui ?
Oui, car un certain nombre de troubles de l'audition peuvent bénéficier d'un traitement dit étiologique, c'est-à-dire un traitement directement de la maladie. Soit un traitement antibiotique en cas d'infection, par exemple, soit un traitement chirurgical. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est plus facile de réhabiliter un trouble de l'audition, d'appareiller un patient lorsque la perte est modérée, tout simplement parce que les voies auditives doivent être stimulées. Lorsqu'elles n'ont pas été stimulées pendant un long moment, le fait de les restimuler à nouveau n'est pas toujours très bien toléré par le patient dans un premier temps, ce qui peut expliquer un échec d'appareillage chez certains patients qui ont des durées de privation auditive importantes.
Il existe maintenant des traitements innovants pour pallier le déficit auditif grâce à la technologie et à la révolution numérique. Qu'est-ce que ça a apporté ?
Je pense que on pourra avoir l'avis de Monsieur Hugonnet sur la révolution numérique. La révolution numérique, il n'y a pas vraiment de révolution numérique pour traiter les troubles de l'audition. On a un traitement du signal qui est de plus en plus performant parce qu'il suit tout simplement les progrès de l'électronique, les progrès de l'acoustique. Mais je suis pas le mieux placé pour en parler.
Et les implants cochléaires, comment ça fonctionne par exemple ?
Alors les implants cochléaires existe depuis 40 ans. Donc on n'a pas attendu la révolution numérique des 15-20 dernières années pour les mettre en place, mais pareil, de la même manière, comme ils comportent une partie électronique, les progrès de l'électronique bénéficient aux implants cochléaires, et la manière dont cela fonctionne, on remplace en fait l'organe de l'audition en implantant des électrodes au centre de la cochlée qui vont aller remplacer la cochlée en stimulant directement le nerf auditif. Donc c'est une solution qui permet de redonner de la communication et de l'audition à des gens dont l'oreille interne ne fonctionne plus.
Et est-ce que ça coûte cher ?
L'implant cochléaire, oui, coûte cher, d'une part en raison du matériel et de l'intervention qui est liée à ce matériel. Donc un implant cochléaire aujourd'hui, entre le matériel et l'intervention chirurgicale et les réglages et le suivi, va coûter environ 30 000 euros au système de santé.
C'est remboursé par la sécurité sociale ?
C'est totalement pris en charge par la sécurité sociale, à condition que le patient rentre dans les critères de l'implantation cochléaire qui ont été fixés par la Haute Autorité de Santé.
On va retourner au standard où nous attend Alseni, qui nous appelle de Tcherkassy en Ukraine. Alseni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes originaire du Sénégal. On vous écoute, vous pouvez poser votre question au docteur Nguyen.
Bonjour. Bon, en fait, d'abord, je vais m'expliquer. Nous avons une maladie, c'est l'écoulement des oreilles. Bon, nous avons tous cet écoulement dans toute la famille. Et aujourd'hui, nous avons passé par beaucoup de grands hôpitaux, que ce soit à Conakry ou bien à Dakar. Par exemple, moi, ça m'a fait perdre 2 années d'études. Et aujourd'hui, Lorsque j'ai été à Dakar pour un traitement, le docteur m'a prescrit des médicaments. En même temps, il m'a donné des facteurs de risque parce que pour traiter sérieusement la maladie, il avait dit forcément il faut une opération chirurgicale. Et cette opération chirurgicale nécessite des risques, des hauts risques. C'est pourquoi je n'ai pas pris les risques. Et donc aujourd'hui, je vais savoir s'il y a un moyen de traitement sans
passer par l'opération.
Et sans que ça...
Docteur Nguyen.
Alors bon, il est difficile de faire un diagnostic à distance par les ondes, mais votre histoire est compatible avec ce qu'on appelle une otite chronique et voir un cholestéatome, c'est-à-dire le fait que de la peau, qui est normalement située sur le tympan, traverse le tympan et pousse dans l'oreille moyenne et érode ou ronge les structures de la chaîne des osselets et toutes les autres structures de l'oreille moyenne. Le traitement de cela est chirurgical. Est-ce que c'est une opération à risque? Ben, ça dépend de votre état de santé, puisqu'elle est en général faite sous anesthésie générale. Donc, la première question, c'est est-ce que votre état de santé permet une anesthésie générale? Et ensuite, elle dépend aussi des compétences des chirurgiens qui vont vous prendre en charge et de leur équipement, puisque c'est une opération qui est de la microchirurgie, donc qui s'effectue sous microscope, pour lesquelles il y a un risque pour le nerf facial qui passe dans l'oreille moyenne, donc il y a un risque de paralysie faciale, et on passe aussi pas très loin du cerveau, notamment du lobe temporal pour traiter ces maladies. Donc lorsque le chirurgien est formé à cette chirurgie et lorsqu'il a l'équipement adéquat, cette chirurgie ne comporte pas de risque particulier, mais elle ne peut pas être faite par quelqu'un qui n'en a pas l'expérience.
Merci beaucoup, docteur Nguyen. Merci à vous, Alcéni, de nous avoir appelé. J'espère qu'on a répondu à votre question. Docteur Nguyen, on fonde beaucoup d'espoir sur la thérapie génique. On en est où actuellement?
Alors, il y a de nombreuses équipes de recherche qui travaillent sur la thérapie génique pour l'audition, mais aussi dans d'autres domaines de la santé, hein, pour traiter d'autres maladies, d'autres organes. Donc les progrès d'équipes dans d'autres spécialités, dans d'autres équipes de recherche, bénéficient aussi aux équipes qui travaillent dans l'audition. Il y a des progrès significatifs qui ont été faits dans des modèles animaux, puisque pour mettre en place toutes ces thérapies, la recherche s'appuie aujourd'hui sur des modèles animaux, et je pense notamment à l'équipe de Christine Petit
à
l'Institut Pasteur qui va bientôt rejoindre
sur des souriceaux, c'est ça,
et créer l'Institut de l'audition. Sur la souris est aujourd'hui le modèle animal qui est le plus utilisé parce qu'il est le mieux connu génétiquement et que l'on peut reproduire plus simplement les maladies génétiques de l'homme sur des souris, et on a pu corriger partiellement des maladies génétiques touchant ces souris en leur redonnant un appareil de l'équilibre tout à fait normal et en corrigeant partiellement les troubles de l'audition. Donc je pense qu'on est pas très loin d'obtenir des progrès significatifs pour passer à des essais chez l'homme dans les années à venir, une échéance que j'estime à une dizaine d'années, mais ça réglera une partie des problèmes de génétique, une partie des problèmes de troubles de l'audition, pas tous.
Ok. Christian Hugonnet, j'ai une dernière question aussi pour vous. On a beaucoup parlé des troubles de l'audition, mais le son peut aussi servir de thérapie. Il y a des thérapies par le son. Vous pouvez nous en dire un petit mot?
Oui, je crois qu'on est un autre secteur de développement aujourd'hui, au-delà de la thérapie génique. Il y a cette meilleure connaissance du fonctionnement même du cerveau. Et donc, on s'intéresse de près, justement, à cette partie qui a été pendant très longtemps ignorée. Hein. On a 60 années de retard. Hein. Je pense que le professeur Nguyen ne me dira pas le contraire par rapport à la vision. Hein. C'est ce que me disait le professeur Paul Avant l'autre jour. Nous avons 60 ans de retard par rapport à la connaissance même de la perception, de l'intelligence même, par rapport au son. Donc, on est en train de s'y intéresser de près aujourd'hui et savoir comment fonctionne effectivement notre perception sonore au niveau cérébral. Donc là, il y a des choses à dire et il y a des secteurs qui se développent aujourd'hui en sophrologie. On commence à comprendre également l'importance de la musique sur le développement également du cerveau et sur les connexions neuronales qui se mettent en place. Voilà des secteurs qui sont tout à fait pertinents.
Merci beaucoup, docteur Nguyen et Christian Hugonnet, d'avoir été les invités de Priorité Santé. On retrouve à présent la chronique de Jean-Marc Sen, médecin du sport et de l'équipe de France de judo. Bonjour.
Bonjour Chantal.
On entend parfois nos auditeurs dire qu'ils souffrent d'une tendinite d'Achille. Alors, une tendinite d'Achille, qu'est-ce que c'est exactement, docteur Sen? Comment la reconnaît-on?
Alors, le tendon d'Achille, eh bien, c'est un tendon qui innuie les muscles du mollet. Alors, il est extrêmement puissant parce que il est soumis à des contraintes mécaniques importantes. Et on reconnaît cette tendinite par une douleur, en fait, qui siège au niveau du talon ou du mollet, qui est souvent permanente, mais parfois intermittente, qui apparaît lors de l'échauffement, disparaît souvent quand on poursuit l'effort et puis réapparaît à la fin de l'effort. Alors, il y a plusieurs types de lésions qui peuvent expliquer cette atteinte. C'est souvent très varié par leur localisation. Ça peut être au milieu du tendon ou à son extrémité. Toujours est-il que c'est lié à des micro-déchirures et pas une réelle inflammation. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faudrait parler de tendinopathie d'Achille plus que de tendinite, qui est la désignation courante et qui en fait est plutôt inexacte. Alors, comment est-ce que le médecin fait le diagnostic? Eh bien, d'abord, c'est en palpant le tendon, tout simplement, en essayant de manuellement l'étirer et puis en demandant au patient de sautiller sur place, sur la pointe des pieds, pour réveiller la douleur. Il pourra aussi, quelquefois, demander des examens complémentaires, comme une échographie ou bien encore une IRM.
Et comment se traite une tendinopathie d'Achille?
Alors, la première chose à faire, c'est d'adapter son activité, hein, en diminuant les pratiques qui sollicitent le tendon. Par exemple, en diminuant la course à pied et en favorisant le vélo ou la natation. Et puis, le médecin, souvent, va prescrire de la kinésithérapie. Alors, le but, ça sera de faire des massages sur le mollet, d'étirer toute la chaîne entre le tendon et le muscle, ou aller faire des traitements plus énergiques en faisant ce qu'on appelle des massages transverses profonds, c'est-à-dire en frottant très durement le tendon. Et puis, on propose souvent de poser et de porter aussi une talonnette pour, là aussi, diminuer les contraintes mécaniques. Quand on a très mal, on pourra appliquer du froid localement pour diminuer cette douleur. Et puis, surtout, il faut ne pas trop forcer sur les anti-inflammatoires parce que il faut pas oublier que la douleur reste un signal d'alerte qui doit nous inciter à adapter l'activité. Et si on prend trop d'anti-inflammatoires, bah justement, on masque ce signal d'alerte. Alors, dernier traitement éventuel, c'est le traitement chirurgical. C'est vraiment le traitement de dernier recours qui est utilisé vraiment quand tous les autres tentés n'ont pas eu de succès. Et puis, surtout quand il y a un vrai risque de rupture du tendon, à ce moment-là, on propose ce traitement chirurgical.
Alors voilà pour les traitements, mais qu'est-ce qui favorise l'apparition de cette tendinopathie d'Achille? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter?
La première cause, comme on l'a un peu dit, c'est le surmenage physique. Donc le fait justement de ne pas avoir mis de progressivité dans son activité et puis ou d'avoir augmenté très rapidement, bien sûr, sa charge par exemple de course à pied ou de danse. Évidemment, plus on avance en âge, plus on est sujet à ce type de pathologie. Le fait d'avoir des mauvaises chaussures aussi peut favoriser ça, ou alors de courir en étant déshydraté, en ne buvant pas suffisamment d'eau. Là aussi, ça peut poser un problème. Et puis, à noter que certains médicaments, des antibiotiques de la famille des fluoroquinolones, peuvent donner des tendinopathies d'Achille. Alors, 5 conseils à retenir pour justement éviter tout ça. La première chose, c'est de ne pas pratiquer des entraînements excessifs ou de rapprocher trop les compétitions, parce que sinon on risque de surmener le tendon. La deuxième chose, c'est de reprendre après une période d'arrêt progressivement son activité sportive pour laisser le temps au tendon de s'adapter à la charge, et puis corriger si nécessaire la statique du pied en prenant par exemple des semelles orthopédiques, bien s'hydrater en ayant des règles d'hygiène pendant l'effort du sportif qui soit bonne, et puis enfin à courir sur un sol qui est plutôt souple et avoir des bonnes conditions d'entraînement. Alors voilà, Chantal, en suivant tous ces conseils, je pense que nos éditeurs pourront pratiquer leur sport favori sans faiblesse, donc sans avoir de talons d'Achille.
Eh bien, merci beaucoup pour ces précieux conseils, docteur Jean-Marc Sen. Bonne journée à vous et à bientôt. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à Assetou Samaké, Ophélie Lassen, Juliette Bro et Louise Kaledek qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Didier Bleu qui l'a réalisée. Demain, nous parlerons de la fratrie. Les relations entre frères et sœurs ne sont pas forcément un long fleuve tranquille. Appelez-nous au 33 1 84 22 75 deux fois.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sunway Assurance qui vous souhaite 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Sunway Assurance, notre métier, l'assurance.